réparer, construire, travailler le bois et d'autres matériaux? T'aimerais être payé pour le faire? Inscris-toi au cours de charpenterie-menuiserie au Centre de formation professionnelle de la Baie James. Le cours dure moins d'un an et t'auras ton diplôme pour travailler partout au Québec dans la construction, chez un entrepreneur général ou en entretien et réparation d'équipements commerciaux. Tu pourrais aussi recevoir une allocation d'éloignement et d'activités sportives et culturelles. Le cours de charpenterie-menuiserie du Centre de formation professionnelle de la Baie James, toutes les infos sur cfpbj.ca. Date limite d'inscription, 2 avril.
Au restaurant Barilet, c'est le festival de la côte levée, barbecue, Hickory, Jack Daniels ou Grand Marnier. Pour 20$, la portion la plus généreuse en ville et même deux saveurs différentes dans la même assiette ou la demi-portion à seulement 12$. Le festival de la côte levée au barilet.ca, la maison du steak.
Midi pile. Une explosion de bon goût avec Simon Tremblay et Fred Gagné.
Radio X.
Midi 26 à Radio X, moins 10 degrés à Saguenay, c'est moins 5 le maximum pour cet après-midi. Hier, pratiquement à la même heure, on a parlé avec François Bonnardel de la Coalition Avenir Québec. Ouais. C'est simple, parce qu'il nous a envoyé un communiqué la veille qui disait sensiblement ce qu'on avait mentionné lundi, puis je trouvais ça bien qu'un député de l'Assemblée nationale le répète, c'est-à-dire que depuis l'élection du gouvernement de Philippe Couillard, qui avait quand même annoncé en campagne électorale vouloir créer 250 000 jobs sur 5 ans, il me semble qu'on entend juste parler de perte d'emploi. C'était ça la prémisse pour quoi on parlait à M. Bonnardel. Mais ça a tombé sur les finances publiques. Et j'ai été un petit peu déçu.
Ça a été, comme on dit, aigre doux.
Un peu, oui.
Un peu aigre doux.
Parce qu'il y avait un constat similaire au nôtre. Mais quand on lui a posé la question à 2, 3 ou même 4 reprises, oui, mais si vous étiez au pouvoir devant cette montagne de problèmes au Québec, de finances publiques, la dette qui continue d'augmenter, vous feriez quoi? Est-ce que tu te souviens d'une réponse claire, nette et précise qui nous permet de croire que la santé financière de la province serait meilleure avec la CAQ au pouvoir?
Non, parce qu'il y avait une occasion en or. Ou ben donc, il garde sa recette du colonel pour un peu plus tard, ou ben donc, il n'a pas la recette du colonel.
Mais... T'as des conventions collectives, t'as des syndicats, t'as des lobbies également au Québec qui sont quand même très forts, et tu peux pas faire n'importe quoi rendu au pouvoir. Et j'avais la discussion avec des gens hier là-dessus, puis je trouve qu'il y en a qui vivent dans un monde de calinours un peu, de penser que tout va finir par s'arranger de toute façon, puis qu'on n'est pas obligé de se comparer à ceux qui ont moins de conditions que nous quand on le fait avec les États américains ou encore les autres provinces canadiennes. On est chanceux au Québec parce qu'on est on est bien, on a plein de services sociaux, les garderies coûtent pas cher, il y a plein de... C'est correct, là, mais les finances du Québec... J'ai eu le langage très cru hier en disant qu'on est une province de cul. Désolé, mais c'est le constat qu'il faut faire.
À chaque fois qu'on dit que le Québec est un pays pauvre, excusez-moi un peu la fausseté au niveau du pays, mais quand même, on se fait rabrouer par tous les gens qui disent « Non, on va bien regarder si puis on a ça, puis on a des beaux projets. » Oui, mais c'est à cela qu'on les fait à crédit. Puis quand c'est le temps d'élaborer, c'est pas chic.
T'as demandé ce matin à l'Institut économique de Montréal de nous envoyer quelqu'un pour pas nécessairement entrer dans la lourdeur puis aller trop précisément, mais pour nous souligner pourquoi on est moins performant au Québec que d'autres provinces canadiennes, exemple, ou que d'autres États américains. Pourquoi surtout? Et qu'est-ce que ça fait d'avoir une dette qui augmente tout le temps? Ils nous ont envoyé Youri Chassin, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Chassin, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous.
Ça va quand même bien, sauf quand j'ouvre sur mon iPhone votre application.
Ah oui, effectivement, parce que ça donne un portrait de la dette. Hein. Ça roule, ça augmente et ça augmente rapidement.
C'est combien la dette du Québec au moment où on se parle, 1er avril à midi 28? Là, si on arrondit, elle est à combien?
Ouais, selon notre compteur, elle est à 274,522 milliards.
OK. Et évidemment...
Ça... Vous savez qu'il y a des gens qui y croient pas, ça, hein?
Ben, en fait, tout le monde s'entend que ça existe. Il y en a qui disent que c'est pas grave. Il y en a qui disent que, ben, quand même, on paye pas mal cher cette dette-là chaque année. Fait qu'on devrait peut-être la diminuer plutôt que l'augmenter.
Bon, et Bonnardel, hier, nous disait un point intéressant. Au niveau des dépenses dans un budget à chaque année au niveau du gouvernement provincial, la santé se taille la part du lion, suivie de près avec l'éducation. Et ce que peu de gens savent, c'est que le troisième ministère le plus important, c'est le service de la dette au Québec.
Oui, c'est ça, c'est pas un ministère, mais c'est la troisième dépense.
Ouais, on peut appeler ça comme ça, effectivement. Et ça, c'est ne serait-ce que de rembourser, non pas la dette, mais les intérêts de la dette à chaque année, ce qui est un montant considérable.
C'est presque égal, dans le fond, au budget de fonctionnement du ministère de l'Éducation, ce qui signifie, en quelque sorte, qu'on pourrait avoir un système d'éducation deux fois mieux financé si on n'avait pas de dette puis qu'on décidait de mettre tout cet argent-là dans un seul secteur. Évidemment, ça serait pas le cas, mais c'est pour illustrer à quel point c'est important le montant qu'on paie à chaque année en intérêt sur la dette.
Question à deux volets. Pourquoi on est rendu là? Et qu'est-ce que ça fait si ça continue à augmenter?
C'est deux très grandes questions. Pourquoi on est rendu là? En fait, parce qu'on n'a pas fait de réformes plus tôt. En fait, on a fait des réformes plutôt cosmétiques. On n'a pas vu, par exemple, un gouvernement de Jean Charest élu avec un mandat de réingénierie de l'État faire grand changement. Hein? Finalement, on s'est dit, on va se calmer, on veut pas trop confronter les syndicats. Évidemment, c'est quelque chose aussi qui prend de l'ampleur compte tenu, par exemple, de la situation démographique du Québec. Notre situation n'était peut-être pas très bonne avant, mais on avait une fenêtre d'opportunité pour changer les choses. Et il y a beaucoup de gens qui disent depuis même la fin des années 90, là, après le déficit zéro, on a eu cette réflexion sur où va-t-on et que doit-on faire dans l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui en appelaient à des réformes, qu'on pense au Lucide, par exemple, en 2005. Et on se retrouve là 10 ans plus tard avec une situation qui n'est pas rose parce qu'on n'a pas fait grand changement. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer? Évidemment, quand on tombe d'un très haut immeuble, on se dit, ben, je suis encore au 30e étage, ça va. Je suis encore au 20e étage, j'ai pas mal, tout va bien. Mais l'important, c'est l'atterrissage, c'est pas la chute. Donc, évidemment, éventuellement, on va frapper le mur. Et là, le problème, c'est qu'on sent ces effets-là de plus en plus. On n'a pas de problème majeur à l'heure actuelle. Par contre, on en a vu des cas où on devient de plus en plus contraint. Et quand on parle, par exemple, de continuer à investir davantage en santé, parce que c'est effectivement non seulement le plus gros ministère, la santé et les services sociaux, mais c'est un ministère dont les coûts augmentent rapidement, plus rapidement que les autres. À ce moment-là, ben, on se dit, si on prend pas les mesures nécessaires, ça veut dire que ça contraint constamment toutes les autres missions de l'État à diminuer en taille, et éventuellement, il va falloir faire des choix d'autant plus douloureux qu'on n'aura plus de marge de manœuvre. Je pense qu'on n'est pas très loin de là, notamment parce que dans les dernières années, on a voulu revenir à l'équilibre budgétaire en augmentant le fardeau fiscal, les taxes, les impôts. Et les Québécois, en général, de façon fort justifiée, sont des contribuables les plus taxés et sont un peu excédés qu'on ait toujours recours à leur poche pour payer la facture.
Ben, vous avez fait l'analogie avec le plancher de l'immeuble, le sol, quand on va se péter la face dessus. Qu'est-ce que ça va faire si le Québec, carrément, est rendu avec une dette trop élevée? Concrètement, là, qu'est-ce que ça va faire?
Dans les faits, donc là, on est déjà très, très élevé par rapport aux autres provinces. Hein. Quand on regarde sous différentes mesures, on est vraiment très endetté. Ce que ça veut dire, pour l'instant, seulement qu'on paie très cher à chaque année d'intérêt. Il n'y a pas un énorme problème. Notre cote de crédit, elle est relativement bonne. Moins bonne que plusieurs autres provinces, mais quand même, elle va pas si mal. Éventuellement, et là, c'est ce qui pourrait arriver. Ce serait pas dramatique la première ou la deuxième année, mais après, ça peut aller très vite. Éventuellement, on pourrait se retrouver à un niveau d'endettement tellement fort que les gens se disent, fort probablement que le fardeau fiscal va devoir continuer d'augmenter pour rembourser cette dette-là éventuellement, sans la rembourser complètement, au moins en assumer les frais. Là, les agences de crédit vont se dire, si l'économie ralentit, la dette continue d'augmenter, c'est quoi les chances que le remboursement se fasse ou que le gouvernement puisse se porter garant de ses obligations? C'est moins bon. On va diminuer un peu la cote de crédit. Là, les intérêts augmentent. Donc, le service de la dette augmente. Et finalement, ça devient une espèce de spirale qui peut décourager l'investissement, la croissance économique. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation qui peut ressembler à celle de certains pays européens comme la Grèce. On n'est pas dans une situation comme celle-là à l'heure actuelle. L'idée, c'est de ne pas s'y retrouver.
Plus tôt cette semaine, je donnais des chiffres, entre autres, qui sont sortis par l'Institut de la statistique du Québec. Là, c'est pas moi qui les ai inventés. Le taux de syndicalisation au Québec versus les autres provinces puis la moyenne canadienne qui est plus élevée, c'est un constat. Est-ce que ça peut nuire soit au développement économique du Québec puis à la situation actuelle?
Oui, c'est pas le facteur principal, mais c'est sûr que quand on est, par exemple, une entreprise qui a des différentes usines, par exemple, pour une entreprise manufacturière, et que on en a dans différentes provinces, et que celles au Québec, elles sont toutes syndiquées, alors qu'ailleurs, c'est en partie syndiqué ou pas syndiqué. C'est sûr qu'on va peut-être faire des choix parfois en fonction, non pas du taux de syndicalisation, mais en fonction de la flexibilité qu'on a. Et si les syndicats sont plus rigides, par exemple au Québec, ben là, ça va avoir un effet. Alors, c'est pas un facteur en soi, mais ça peut être indicateur de quelque chose. Et c'est vrai qu'au Québec, on est la province la plus syndiquée au Canada. On n'est pas très loin de 40%. C'est un taux qui se maintient. Au Canada, c'est plutôt, en fait, autour de 30%.
Parce que je veux bien que les auditeurs comprennent, je suis pas syndical en disant ça, mais si on prend pour acquis qu'il faut réduire la taille de l'État, il faut toujours bien qu'il y ait des emplois dans le privé pour contrebalancer puis donner de la job à tout le monde.
Exact. Alors que dans le secteur public, tout le monde est pas mal syndiqué. Mais enfin, tout le monde, tous les permanents sont syndiqués. Ce qui effectivement gonfle un peu les chiffres, parce qu'au Québec, on a un petit peu plus que la moyenne canadienne d'emplois qui se retrouvent dans le secteur public. Donc un peu moins dans le secteur privé. Et évidemment, ben ça veut dire que on a plus de services publics. Ça illustre ça. Ça veut dire aussi que on a besoin d'une fiscalité plus lourde pour assumer tous ces services-là.
Monsieur Chassin, c'est Lucien Bouchard, il y a une couple d'années, qui nous avait dit, je pense que les Québécois, dans ses propres mots, avaient dit, vous travaillez pas assez. Parlez-moi du PIB du Québec par rapport à d'autres provinces. Et parlez-moi un peu de manière individuelle, les Québécois qui, en heures de travail par semaine, je crois, travaillent moins que leurs homologues ontariens ou d'autres provinces.
Oui, en effet. Alors, évidemment, pour revenir un peu sur la déclaration controversée de Lucien Bouchard, on lui avait fait dire que, dans le fond, d'un air un peu condescendant, il avait dit que les Québécois travaillaient moins. En fait, c'est un fait qu'en moyenne, les Québécois travaillent moins d'heures par semaine, moins de semaines dans l'année et moins d'années dans leur vie active. Donc, évidemment, bon, c'est une donnée, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les Québécois sont plus paresseux. Au contraire, en fait, c'est peut-être tout à fait astucieux. On réagit à une situation où le travail nous rapporte, mais est très imposé. Donc, on diminue un peu notre temps de travail. Et c'est le cas au Québec, puis il y a plusieurs indicateurs qui le disent, notamment le fait que notre âge moyen de la retraite au Québec, il est d'environ 62 ans. Donc, les gens prennent leur retraite à 62 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils continuent pas à travailler à temps partiel ou avoir des contrats de ci, de là après. Mais c'est beaucoup plus tôt que dans le reste du Canada. Donc il y a une différence qui signifie que durant notre vie active, ben on produit un peu moins, on décide de gagner un peu moins d'argent, parce que de toute façon, il y a une partie de cet argent-là qu'on envoie en taxes et en impôts et dont on ne voit pas la couleur.
Alors, en terminant, M. Chassin, je disais à l'introduction que M. François Bonnardel m'a un petit peu déçu hier parce qu'il ne ferait pas beaucoup de solutions. Je sais que vous êtes apolitique à l'Institut économique de Montréal, mais est-ce que vous croyez qu'il y a un parti qui pourrait éventuellement arriver au pouvoir et faire drastiquement des changements dans les conditions actuelles, c'est-à-dire des mains liées en raison des syndicats? On voit que le moindre petit changement amène des contestations monstres au Québec. Est-ce que c'est possible de virer le bateau de bord ou c'est carrément utopique?
Je pense que c'est possible. Vous me permettrez de m'abstenir parce que nous, on suggère des bonnes politiques publiques et peu importe le parti, hein,
oui.
Que ce soit la Coalition Avenir Québec, le PQ, le PLQ ou le Québec solidaire qui reprend nos idées, nous, on est tout à fait contents. Évidemment, je pense que c'est possible et parfois, parce que là, évidemment, on a fait un tour d'horizon un peu pessimiste, mais il existe au Québec des choses qui marchent. Et hier, d'ailleurs, mon collègue Yannick Labrie en parlait en santé. On a toujours l'impression qu'on a un système de santé épouvantable. Eh bien non, il y a des choses qui fonctionnent très bien en santé. Par exemple, je ne sais pas combien de temps vous avez attendu, combien de mois vous avez attendu, vous, la dernière fois, avant de réussir à avoir un rendez-vous chez votre dentiste. Moi, ça a été très court. On n'a pas beaucoup d'attente au dentiste. Quand je vais en pharmacie non plus, hein, je reste pas assis longtemps dans la salle d'attente avant de voir le pharmacien. Ça se passe vite. Il y a des choses qui se passent très bien en santé. Évidemment, c'est des choses qui sont privées et où on a toute une incitation à répondre à la demande des clients. Donc, il y a des solutions en santé, il y a des solutions en éducation et c'est un peu le travail de l'Institut économique d'en proposer toutes sortes. Mm-hmm. En finances publiques, ben oui, il va falloir être discipliné dans les prochaines années parce qu'on a fait des choix qui nous ont conduits là où on est. Il s'agit maintenant de s'en sortir.
Monsieur Chassin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne fin de journée. Youri Chassin, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent actuellement en mangeant. Plusieurs auditeurs nous disent « Ah, on prend notre break de lunch puis on vous écoute dans le char. Je m'excuse si on vous a coupé l'appétit. » Parce qu'effectivement, ça a l'air pessimiste, ça a l'air négatif ce qu'on dit, mais c'est juste qu'à chaque fois que j'en parle à du monde, tout le monde a l'air à dire « Ben non, c'est pas si pire que ça. » Puis de toute façon, la dette, ça a bien beau augmenter, ça a bien beau augmenter. Je serai plus là quand on sera dans la marde, puis je m'en sac bien du reste. « Hey, allô? » Marche pas de même, là. Puis il y a personne qui veut perdre des acquis. Ça, c'est humain, c'est normal. Mais il faudra des gens qui prennent des décisions et des décisions qui devront être courageuses sans nécessairement toujours penser aux contestations et tout ça, parce que sinon, on va arriver direct dans le mur. Puis ça fait longtemps qu'on en parle, puis ça sera de pire en pire. Midi 40 à Radio X.
Midi pile. Pile.
95.7 Radio X.
Ébénisterie PTM, complice de vos bonheurs quotidiens.
Thierry, savais-tu que selon sondage, on passe plus de la moitié de notre temps dans la cuisine à préparer les lunchs, le dîner, le souper, faire la vaisselle et à recevoir des gens?
Ouais, pis?
Ben, il me semble que pour le temps qu'on passe dans la cuisine, là, pour être plus, je sais pas, plus pratique.
Sais-tu? T'as raison, chérie. Viens, on va chez Ébénisterie PTM, la 8e avenue Adolbeau-Missassini, avec leur conseiller et la salle de monde de plus de 2000 pieds carrés.
L'art de meubler son intérieur avec distinction. Votre satisfaction, c'est nous qui la fabriquons. Ébénisterie PTM.
À 12h41 ce soir au Centre Georges Vézina, c'est le premier match local des séries pour les Saguenayens de Chicoutimi contre les Wildcats de Moncton. C'est une série qui est égale 1-1. Donc tout est possible, évidemment. Il y a un engouement, on le sent, l'engouement depuis le début de la semaine.
C'est clair.
Et Promotion Saguenay est fière d'encourager les Sags. Il invite 500 personnes à assister aux matchs locaux d'aujourd'hui et demain soir. On a des billets dans l'émission pour demain soir.
Ouais.
La game de demain, donc la deuxième game locale. J'y serai d'ailleurs demain soir. J'ai bien hâte d'assister à ce match-là contre les Wildcats. Soyez de ceux qui ont la chance de voir évoluer Bidia, Dauphin, Rangé, Paquet, Boudreau aussi, qu'on n'a pas vu beaucoup pendant la saison en cause de blessures, évidemment, sera là à son poste pour les matchs locaux. Ce sera bien le fun de voir ces gars-là puis tous les autres qui seront de la partie pour tenter d'arracher cette série-là face aux Wildcats. C'est une initiative de Promotion Saguenay et un petit peu similaire à ce qu'on a fait hier, mais avec une twist de plus, t'as donné un petit peu de challenge, de fil à retordre aux auditeurs de Midi-Pile.
C'est pas évident, mais c'est faisable, très faisable. Des amateurs de hockey vont trouver la réponse. Vous allez sur la page Facebook de Midi-Pile. Je vous ai mis deux photos, le devant et le derrière d'un authentique chandail de hockey porté par un joueur des Sags il y a un certain temps. Ce chandail-là est authentique, il n'a appartenu qu'à un seul joueur. Il y a des indices sur le chandail qui permettent de l'authentifier. Dites-moi à qui a appartenu ce chandail-là. Et si vous avez la bonne réponse, le premier qui l'a gagne sa paire de billets. J'ai hâte de voir. Parce que c'est un joueur qui a été, à son époque, important chez les Sags, ou avec une certaine importance. Tant mieux, j'ai hâte de voir. Parce que
c'est pas une facile.
C'est pas une facile, mais il y a déjà des gens qui sont en train de travailler sur ce dossier-là. Petit indice, ça date pas de 20 ans, ça date pas de 15 ans, ça date de... il y a quelques saisons.
OK. Sur la page Facebook de Midi Pile, qui est très facile à trouver, vous pourrez donc remporter votre paire de billets pour le match de jeudi.
L'Italie, la Grèce, la France, l'Espagne, en circuit ou sur mesure, tout est possible avec Voyage Nouvelle Escale. 589-3005, voyagenouvelleescale.com. Mieux conseillé pour mieux voyager.
On s'enligne vraiment sur une fin de semaine de glisse infinie au Mont-Édouard. Venez célébrer Pâques les planches aux pieds. Conditions de ski exceptionnelles et températures douces vous attendent. De plus, découvrez les meilleures raisons au monde pour prendre votre carte de saison au Mont-Édouard en bénéficiant de notre prévente de printemps. C'est 20% de rabais sur la prévente du billet de saison 2015-2016. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.montedouard.com ou notre page Facebook.
En mars, au Centre Hi-Fi de Chicoutimi, c'est notre grande vente de liquidation d'inventaire 2014. Nous payons pour vous les deux taxes sur plein d'articles en magasin, tels télé, ordinateur, cinéma maison. Mais faites vite, car cette vente se termine le 31 mars au Centre Hi-Fi de Chicoutimi.
Pendant le long week-end de Pâques, vos magasins ultraviolets de la région paient les taxes sur tous les vêtements et chaussures à prix régulier en magasin. Jeudi, vendredi, samedi et lundi de Pâques, pas de taxes, même sur les grandes marques. Roxy, Quicksilver, Volcom, Salomon, Vans, DC. 4 jours seulement dans vos ultraviolets de la région.
C'est Pâques chez Animalerie Jonas. Pour l'occasion, on vous offre le petit pensionnaire gratuitement à l'achat de son habitat. Achetez une cage à rongeurs équipée et recevez le petit rongeur gratuitement. Souris, hamsters, cochons d'Inde et lapins sélectionnés, ils sont gratuits. On vous offre la même promotion dans le rayon des oiseaux. Achetez votre cage tout équipée et obtenez gratuitement la perruche ondulée. On célèbre Pâques en grand chez Animalerie Jonas. Les promotions rongeurs et oiseaux sont offertes seulement jusqu'au 12 avril. Animalerie Jonas, boulevard Talbot.
Vous voulez refaire votre toiture cette année? Constructoire fête son 5e anniversaire. Et pour l'occasion, Constructoire vous offre la chance de gagner 3 500 $ cash. Chef de file dans le domaine de la réfection, restauration, isolation et ventilation de toiture, donne l'opportunité à tous ses clients de toiture de gagner 3 500 $. Contactez-nous dès maintenant pour tout projet de construction ou de rénovation. Estimation gratuite. Constructoire.com ou sur notre page Facebook.
Radio X. En fait, on a annoncé des gros travaux autour de la rue Saint-Dominique. Alors, il s'en vient beaucoup de choses.